Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du Val, le Podval du Cast, comme disait notre ami Darky qui est ici.
Alors, bonjour à tous.
Certains auditeurs désirent que vous vous présentiez un petit peu pour qu'on sache. Parce que c'est vrai qu'on a fait notre premier podcast un peu genre « Ouais, on est avec Darky, le mec super cool, machin », mais en fait, personne sur le podcast du Val ne te connaît, donc il faudrait que tu te présentes. Alors, présente-toi rapidement.
Bonjour, je m'appelle Benjamin, alias Darky.
Tout à fait.
Je suis joueur du Val depuis ses débuts. Et j'espère l'être encore pour longtemps.
Bah oui.
C'était la même présentation que j'ai faite dans l'épisode 1.
Bah voilà.
Vous voilà. Servi.
Voilà. Bon. Flavie, une petite présentation rapidement.
Bonjour. Je m'appelle Flavie.
Bonjour Flavie.
Bonjour Flavie.
C'est exactement la même présentation. On reconnaît exactement les mêmes.
D'ailleurs, j'ai le même sujet. Donc on va faire le même
podcast. Je suis venue vous parler d'une. Je suis accro au Val depuis.
D'accord. Ouais.
Depuis déjà quelques temps. J'ai participé à l'élaboration du jeu. Et en plus, maintenant, je couche avec son créateur.
D'accord. C'est très intéressant.
Elle est valcolique.
J'ai un bébé de lui.
On peut peut-être parler de la quéquette céleste.
Avec le créateur ou avec le dealer plutôt.
Votre quéquette céleste.
Les deux, c'est un indépendant.
Ben, à ta quéquette céleste.
Je suis quatrième du classement pour l'instant. Et avec je ne sais plus, 100 et quelques.
Oh là là,
190.
Tu brilles.
Non.
Non, c'est pas terrible.
Oh, je suis loin de tes 300.
Hein. Ah, il y a des raisons si je suis avec lui. Hein.
Il y a que la quéquette céleste qui t'intéresse.
Tu as une quéquette céleste aussi.
Ça dépend si tu es en centimètres ou millimètres.
Je crois qu'on parle en années-lumière, là, en l'occurrence.
En années-lumière, la vache. Sacrée quéquette céleste. Je sais pas du tout combien je suis.
Alors,
en quéquette céleste.
Tu sais pas, non. Autour de 70-80.
Si, je crois
80.
Que t'es la première. Hein. Des filles, t'es la première.
Mais je suis la seule.
Voilà. C'est ce que je dis.
Je suis aussi la dernière.
On a la chance, on a la chance aujourd'hui la d'être avec Erwan. Erwan Garnier, ça va Erwan? La pêche? La patate?
Ça va, ouais, jusqu'ici tout va bien.
Alors, il faudrait que tu te présentes un petit peu. Alors, le Val, tu connais ça depuis quand? Depuis comment t'as découvert?
Grosso modo, avec toi.
Ouais.
Et puis, donc ça fait un petit moment que je joue, un peu comme Flavie. Un peu comme Flavie, puisque je suis son frère.
Oh, nous apprenons des choses.
Son frère.
Oh là non là, mon Dieu.
Ce n'est pas vrai.
C'est impossible.
Vis dans ton cœur et tu sauras que c'est la vérité.
Et oui, la guerre des étoiles, c'est aussi ça. Et nous sommes également avec Jeff Negus, ça va? Au Shinkage, je ne sais plus comment t'appeler.
Oh, tu peux m'appeler Cal directement.
Cal, d'accord, ok.
Et pour faire simple, je suis le cousin des îles, moi perso.
Ouais.
Parce qu'il y a frangin, frangine. Voilà, j'aime bien le côté familial, ça m'a toujours plu.
Le Val, c'est avant tout une famille.
Voilà, c'est une grande famille.
Et toi, alors, ta quéquette céleste brille pas beaucoup, puisque pour l'instant, tu découvres, tu es un...
Effectivement, oui, j'ai découvert le jeu avec toi, j'en ai parlé surtout un peu avec Aloïs à l'époque, c'est là que j'ai pu un peu tester le jeu. Malheureusement, je manque un peu de pratique.
Ah, voilà. Donc il va falloir pratiquer.
Je suis venu peut-être... écouter la bonne parole, on va dire.
Voilà. T'es venu pratiquer avec nous, t'as déjà fait tes petites premières parties,
Bien évidemment, bien évidemment. Oui, très très bien.
Bien. Bon, c'est bien. Voilà, donc...
Je vois pas encore toutes les subtilités, mais ça commence à venir tranquillement.
Voilà, pour une petite présentation, c'est quand même sympa pour les auditeurs de savoir qui parle.
Qui
alors c'est vrai que Darky et Flavie s'étaient déjà présentés la dernière fois, mais voilà. Alors, il faut savoir que le podcast du Val a une tradition.
Déjà, au bout de deux épisodes, la vache, c'est
cool. Tradition respectée scrupuleusement depuis son commencement.
Absolument.
J'adore la tradition.
C'est que les podcasteurs ne connaissent pas le sujet. Alors, puisque la dernière fois, c'est moi qui avais proposé le sujet, nous allons demander à un autre podcasteur, à savoir Ben, de nous proposer un sujet. Personne ne le connaît autour de la table. Ben, quel est le sujet de ce podcast?
Alors, le sujet concerne l'ouverture.
Oula.
Oula. Ça va être une question situationnelle. Le jeu commence, on distribue les cartes. Vous avez 9 cartes. Le rituel du crépuscule, vous avez 9 cartes. Le rituel du crépuscule vous en donne une dixième. Mmh. Admettons que vous ayez 2 piques, 2 cœurs, 2 trèfles, 2 carreaux, 2 têtes.
Mmh. Bien, déjà, bonne main.
Quelle formation posez-vous en premier?
Ah.
Bah moi, ça dépend parce que, en fait, je change très souvent de façon de jouer. Donc, je vais certainement dire l'inverse de ce que j'ai dit lors du premier podcast.
Oui, c'est. Pourquoi pas?
Moi, je pioche un. Moi, je pose un fou.
Ah.
Alors, peut-être, je vais reformuler ma question. Quelle formation faudrait-il poser idéalement et quelle est celle que
fou.
Je poserais?
Alors,
fou.
Je rappelle.
Fou.
D'accord. Fou.
Enfant.
Comme le collège.
Enfant. Erwan, oui, enfin. Alors, fou, est-ce que tu peux argumenter, Flavie ? Parce qu'il faut argumenter.
Alors, le Flavie. Fou, pour une raison très simple, si j'ai plusieurs figures, ça me permet déjà de recycler plusieurs cartes et du coup de m'amener des coups prochains, mm-hmm. puisque je vais déjà pouvoir piocher deux cartes qui vont me permettre de pouvoir voir un petit peu plus loin. Mm-hmm. Et puis, les cartes, même si on a deux piques, deux carreaux, etc., ça ne veut pas dire qu'elles soient très fortes. Donc, je m'arrange pour mettre dans ce fou les cartes les plus faibles que j'ai.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ta sortie, c'est ce qu'on appelle le fou de Menkent. Oui. C'est-à-dire, c'est un fou faible, avec que des cartes faibles. En fait, en gros, ce que tu fais, c'est que tu vas niveler ta main par le haut, Fly en l'occurrence. Mm-hmm. Parce que dans ta question, tu ne dis pas, Darky, quelles sont les valeurs des cartes.
Effectivement.
Flavie dit, là, je recycle mes cartes les plus faibles dans le fou et pour piocher de nouvelles
D'autant
cartes.
D'autant que si je suis la première à jouer, je n'ai pas le droit d'attaquer.
Mmh. Alors ça c'est capital.
Donc
pour
du coup, soit je pioche, soit je gagne des PV. Moi personnellement, je trouve que dans le Val, la pioche c'est ce qui fait gagner. Mmh. Donc du coup, je mets directement un Fun Menkent. Je pioche deux cartes qui potentiellement sont meilleures que celles que je viens de poser. Et en plus, j'en attrape une autre pour quatre cartes. J'en ai trois qui sont certainement meilleures. Mmh. Moi, je trouve que c'est parfait.
Erwan, tu disais l'enfant. Et moi, je te rejoins sur cette idée aussi, dans la théorie.
Là, tu me fais plaisir.
Alors, pourquoi l'enfant, Erwan ?
Alors, pourquoi l'enfant ? Eh bien, écoute, c'est simple. Déjà, l'enfant me fait gagner des points vie.
Ouais.
Des points de majesté. Et donc, en plus, si j'ai une figure à cœur, donc c'est du plus.
Ah ouais.
Et de plus, ça met l'adversaire en difficulté parce que s'il veut me tuer l'enfant au prochain tour, effectivement, il perdra aussi 5 points de vie.
Ouais.
Donc ça, c'est intéressant de ce point de vue-là. Et puis, on peut faire évoluer l'enfant assez rapidement, en fait.
Ouais. Alors moi, je suis d'accord avec toi et j'ajouterai un dernier point. C'est qu'en fait, si on réfléchit bien au Val, lorsque l'on commence, on est en position de défenseur. On n'est pas en position d'attaque. On est en position de celui qui va subir. Parce que c'est le second qui a le droit, c'est au tour 2, donc au tour de ton adversaire, que tu vas avoir le droit d'attaquer. Or, dans une position de défense, la meilleure chose à faire, c'est 1. De temporiser en gagnant de la majesté, donc l'enfant est le meilleur pour cela, et 2. De temporiser la fougue du pic ou du carreau adverse. Pour temporiser le carreau, gagner des points de vie, c'est le mieux avec l'enfant. Et pour temporiser le pic, de toute façon, l'enfant a plus 1 en cœur, donc il est meilleur en défense. Même si, par exemple, on a de quoi poser un chevalier, pour compléter ce que dit Erwan, il vaut mieux poser un enfant au premier tour et l'éduquer ensuite en chevalier parce que l'enfant aura son 1 d'endurance durant le tour d'adversaire supplémentaire et quand je vais l'évoluer en chevalier, là, il aura son 1 en attaque, sachant que le chevalier adverse, parce qu'à mon avis, un enfant, ça appelle forcément un chevalier à l'adversaire.
Tout à fait.
Moi, je crois que si tu poses enfant tour 1, au tour 2, tu vas te retrouver face à un chevalier.
Mais du coup, au tour 2, tu ne pourras pas éduquer ton enfant puisque tu ne l'auras plus. Quelqu'un qui pose un enfant au tour 1, le second se focalise dessus, le défonce à son chevalier,
oui.
Et l'autre est tout nu.
Et là, c'est là que l'argument d'Erwan est très fort, je trouve. C'est que du coup, toi, tu commences avec un delta de majesté qui est supérieur à ton adversaire. C'est-à-dire que lui, il a perdu 5 points de vie, il t'a montré une carte, il a posé son chevalier sur la table. Cette fois-ci, c'est toi qui prends la position haute en position d'attaque. Sachant que s'il a posé un chevalier, pour peu que tu aies du carreau, tu peux l'attaquer au dégât direct, il n'est plus qu'à 20. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve que tu trouves une position qui est théoriquement un peu meilleure. Je trouve. Théoriquement, on est dans la théorie.
Ok, ok.
Hein. Jeff.
Donc moi qui suis le joueur le moins expérimenté autour de cette table, j'aurais tendance à dire justement, dans ton cas de figure, à dire justement de sortir un accompli.
Ah. Et moi je te rejoins.
Yes.
Alors tout là, simplement, alors j'ai pas encore toutes les subtilités, mais pour étayer un peu le truc, justement, créer un petit peu un côté de force et de faiblesse.
Mm.
Quelque part, faire justement jouer sur mon manque d'expérience, sortir directement un accompli, l'autre va vouloir essayer de le casser, ça va me donner une forme, et travailler là-dessus. Ce serait un peu
oui,
ça mon idée,
au-delà
moi,
de ça, pour pouvoir tuer ton accompli. Il va falloir qu'il utilise deux cartes.
Mmh.
Et je sais qu'une des techniques de Cédric pour débuter, c'était de poser des accomplis faibles.
Tout à fait.
Qui du coup faisait utiliser deux coups à l'adversaire.
Perdre du temps. Et
oui, et qui lui permettait ensuite, lui, de remonter.
C'est vrai qu'effectivement, c'est ce que je voulais préciser, c'est de justement sortir un accompli faible.
Ouais.
Dans le cas de figure
possible. C'est l'homme de paille, c'est ça ?
L'épouvantail. Cédric appelait ça l'épouvantail. C'est-à-dire un accompli faible dont le but est de focaliser l'attention de l'adversaire, le pousser à faire des erreurs pour se débarrasser d'abord de son cœur ou de son pouvoir, puis de son cœur, enfin, et inversement si on a commencé par l'autre. Alors moi, je ne sais pas jouer ça. Moi, honnêtement, j'ai voulu le jouer, l'épouvantail, plusieurs fois. Souvent, je me suis raté. Il y a une autre position aussi, Darky, mais c'est peut-être pas celle que tu vas défendre, je sais pas. Tu disais toi aussi un accompli ? Mais toi, c'est peut-être un autre accompli ?
Je t'écoute.
Un accompli fort, peut-être ?
Je t'écoute. C'est non. Ça ton autre position ?
Je me demande.
Alors, moi, oui, au final...
Adrien disait que le meilleur coup, c'est l'accompli fort au tour 1. Le plus fort possible. Poser toujours l'accompli le plus fort possible, il disait.
Ah, je suis pas du tout d'accord.
Alors
ça
dépend beaucoup de tes cartes.
Après,
en regardant tes cartes, tu peux deviner un petit peu si l'adversaire s'il est fort en carreau, poser un accompli fort, c'est peut-être un peu se retrouver avec un chevalier qui va, poser un truc qui va se faire défoncer. Mais moi j'ai tendance à jouer comme ça. Je pose un accompli qui est pas forcément toutes mes meilleures cartes parce que bon après s'il se fait tuer, t'es vraiment tout nu quoi. Mais un accompli pas ridicule, je trouve que c'est une très très bonne ouverture.
Par contre, l'accompli le plus fort possible, moi j'ai joué comme ça à un moment. Et en fait, j'en suis vraiment revenue pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en posant un accompli avec des cartes fortes autour, tu limites ensuite le nombre de figures fortes que tu vas pouvoir poser ou avec des atouts que tu vas pouvoir poser par la suite. Ouais. Déjà, ça, je trouve c'est embêtant parce que tu limites tes tours d'après. Mine de rien, en posant 5 cartes, tu finis avec une main à 4 cartes, quoi. Enfin, c'est dur après. Ensuite, je trouve que suffit que la personne en face... pose à un moment deux figures, bon, et ça se désingue facilement au final, même si c'est fort.
Ouais, mais alors pour moi, en posant un accompli tour 1, c'est le principal atout, c'est de le faire survivre au tour 2, quoi qu'il arrive. Enfin, au tour 3, du coup, quand ce sera à toi de jouer.
Pour pouvoir combiner, pour tuer les grosses figures.
Voilà, et donc normalement, en posant un accompli fort, ou un accompli en tout cas, il va survivre au tour de l'adversaire. Et ce sera toi, celui qui a commencé, qui aura les cartes en main, qui pourra ne laisser rien passer sur le val adverse, sur le versant adverse.
Ouais, moi, poser une seconde créature. Je ne suis pas du tout comme ça, moi.
Alors, en fait, vous, je pense que vous êtes d'accord. Si on écoute bien dans l'exemple de Darky, il y a deux de chaque. Donc, il peut poser son accompli parce qu'il sait que derrière, il peut former n'importe quelle combinaison. Si on écoute le contre-argument que Flavie a opposé à ta stratégie, c'est... Oui, mais si tu poses ton accompli, tu risques de te retrouver en pénurie au tour d'après. Mais dans l'exemple de Darky, c'est pas le cas, puisque tu as toutes les figures. Donc au final, je suis d'accord avec Fly sur une partie aléatoire, mais dans le cas théorique que nous propose Darky, je suis plutôt d'accord avec Darky du coup, si tu as vraiment déjà les figures. Tu vois ce que je veux dire, Fly ?
Ouais, mais ouais. J'aurais d'autres choses à dire après, Jeff.
Jeff.
Donc, juste pour rebondir un petit peu sur ton idée, a priori, je crois qu'on a à peu près la même idée, je voulais savoir... Donc, tu poses ton accompli.
Donc, il perd la benne. Jeff perd la benne.
Ouais, directement, ouais. Tu poses ton accompli. Est-ce que c'est pas un sous-entendu pour qu'à ton prochain tour, tu sortes justement un autre accompli ?
Alors, tu peux pas.
Tu peux pas. Sauf si. Enfin, tu peux pas poser une formation que tu as déjà sur le.
En éduquant pour essayer de refaire un autre accompli plus tard. Excusez-moi, je m'explique un peu mal.
Alors, je comprends, mais.
Si tu veux d'avoir déjà. Entre guillemets, d'avoir ton stock de cartes. Sur la table, tout simplement.
Mais attention, ça ne te fera jamais qu'une seule action. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, on ne peut pas rendre son cœur à un spectre. Donc, si on l'accomplit par le cœur, tu ne pourras pas le rééduquer en cœur.
Dans ce cas-là, attends, je vais reformuler. Je me suis un peu embrêlé les pinceaux, on va dire.
C'est dur de parler d'un jeu de cartes au micro. Oui.
Clairement. Donc, en gros, ce serait donc de faire flipper au premier tour en sortant un accompli. Pas très fort, on va dire, mais pas ridicule non plus, pour pouvoir sortir après, plus tard, une autre grosse figure, et de jouer avec ces deux cartes, enfin avec ces deux tas de cartes, grosso modo.
Ouais.
Est-ce que c'est un peu ça le sous-entendu ou...
Alors, oui et non. L'idée que tu mets en avant, que j'aime pas trop, c'est l'idée de faire flipper. Typiquement, c'est plus de survivre. C'est vraiment poser quelque chose qui va rester.
Si tu écoutes bien, ce qu'on a dit avec Erwan, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le but du gars qui joue au tour 1, c'est d'avoir quelque chose qui a survécu au tour 2 de l'adversaire. Donc nous, on proposait l'enfant.
C'est vraiment de gagner du temps.
C'est plus s'adapter en fait, Jeff, simplement. C'est pas, tu vois, c'est pas poser mes cartes et me dire, j'arrive avec une stratégie, je vais te défoncer la gueule, je vais mettre mes meilleures cartes jusqu'à ce qu'elles restent. C'est plus, je pose ça, je sais que ça reste jusqu'à tour 3. Et à tour 3, je peux poser une deuxième créature et donc m'adapter à tout ce que t'as posé. T'as posé un magicien, je vais te défoncer avec tel truc. T'as posé un fou, je vais poser un magicien pour te défoncer ton fou, piocher deux fois. Tu restes. tu as une possibilité énorme de t'adapter. Hmm. Par contre, tu as cramé toutes tes cartes au tour 3.
Hmm. Flavie, tu voulais, repartir sur ce tome de paille.
Pour moi, je pense que le fou faible, en premier tour, a plusieurs atouts. Ben déjà, il les fait piocher, mais par rapport à l'accompli, je trouve qu'il permet déjà, parce que quand tu commences au premier tour, en effet, tu es en position de défense. Il va falloir que tu scrutes le jeu de l'adversaire pour savoir ce que tu vas piocher après. De l'intérêt de continuer à avoir une grosse main. Et le fait que tu es un fou, lui fait soit utiliser son carreau, soit utiliser son pic. Donc déjà, tu vas pouvoir jauger de ce qu'il a posé en face de toi.
Ouais.
Et je trouve que plutôt que de se dire on va essayer de tenir et de survivre avec cette figure, poser des problèmes différents pour jauger de ce que l'adversaire a posé en face de toi pour ensuite lui poser un vrai problème, ça, je trouve ça intéressant.
En fait, ce que tu dis, Fly, ni plus ni moins, c'est moi, je préfère poser un fou parce que ça me permet de ne jamais jouer de tour 1.
Exactement.
C'est-à-dire que du coup, finalement, c'est moi qui reprends l'avantage. Parce que oui, de toute façon, moi, j'ai pioché mes cartes. Toi, tu joues en premier, en fait, en attaquant mon fou de paille dont j'ai rien à foutre. Au final, j'ai deux cartes en main en plus. Je perds, finalement, je crois que si on fait la somme, ça doit être, je dois perdre une carte, mais au moins, c'est pas moi qui commence. C'est ça que tu veux dire.
Alors, ouais. J'ai une question, Fly.
C'est marrant, c'est-à-dire qu'elle joue en réaction.
Est-ce que tu serais d'accord, Ben, pour commencer le jeu avec une carte, voire deux cartes de plus que ton adversaire, et que ce soit à toi de jouer, mais qu'il ait déjà un accompli posé sur son tour, sur son versant? Est-ce que ça te semblerait équitable?
Je sais pas, j'ai encore jamais joué comme ça. Donc
parce qu'au final, je trouve que poser un fou, ça permet à l'adversaire de poser un accompli, de tuer ton fou.
En fait,
et tu te retrouves avec un peu de cartes en plus.
Je trouverais pas forcément ça équitable parce que c'est pas du tout le même jeu.
Bah, en fait, là, je venais te dire que toi, quand tu poses un fou, l'autre.
Non, parce que là, dans ton exemple, l'autre, il a posé un accompli, mais il a combien de cartes en main?
Ah oui. Ah oui, 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 ah oui, tout
parce
à fait.
Parce que moi, je compte le nombre de cartes. Moi, parce que dans ces cas-là, je trouve que c'est totalement déséquilibré.
Alors, c'est-à-dire que s'il commence. Alors, ouais,
son accompli voilà. Posé, mais
il commence avec 5 cartes en main. Voilà. En il commence avec 5 cartes en main, un accompli. Bah là, il va te dire oui.
Ouais. Bah oui.
Tu trouverais ça plus valable.
Ouais.
D'accord.
Voilà. Si, parce qu'en fait, du coup, Fly est une joueuse qui aime jouer en réaction, finalement. Elle aime d'abord avoir des informations avant de jouer. Ce qui est paradoxal par rapport à sa personnalité, à sa manière de jouer jusqu'à aujourd'hui.
Oui, puis paradoxal tout court, parce que moi j'ai l'impression qu'en posant un accompli, je m'offre cette possibilité d'adaptation aussi.
Ben,
mais je suis d'accord que
il y a plus de cartes à la rivière, il y a plus d'informations, l'accompli a révélé au moins une de ses cartes, sachant que tu as les cartes que tu as en main, tu as de l'info. Quoi. La stratégie du fou, ça permet d'échanger contre mauvaise fortune de commencer. Bonne information de jouer en troisième. Quoi. En gros, tu retardes le tour. Tu laisses l'initiative à l'autre en ayant plus de cartes en main. Mais c'est ton exemple, ton expérience de pensée, Ben, résume bien le truc. Jeff.
Vous m'arrêtez si je pars sur autre chose, hein, mais en gros, ce que je suis en train de comprendre en vous écoutant dans le cas de figure que propose Darky, c'est que finalement, dans le Val, le vieil adage de l'attaque est la meilleure défense, finalement, non. J'ai l'impression.
Pour Fly,
des
joueurs plus agressifs.
Est-ce que c'est votre sentiment autour de la table? En vous écoutant, c'est un peu ce que je ressens.
Alors oui et non, parce que le premier tour, tu peux pas attaquer de toute façon. Et pour moi, c'est la meilleure attaque que de poser un truc qui va survivre, qui va pouvoir déglinguer en posant une deuxième formation tour 3, et c'est de l'attaque. Hein.
Ouais.
C'est juste poser un truc qui va rester pour pouvoir attaquer.
Alors que moi, premier tour, comme du coup on peut pas attaquer, ben j'estime que c'est là où faut essayer de se refaire une main et de se donner l'avantage pour être celui qui finit par attaquer.
Mais tu vois, ça dépend des joueurs. Un joueur agressif, paradoxalement, va jouer enfant au tour 1. Un joueur comme Yann Sully, par exemple, qui est un joueur extrêmement agressif, même s'il s'en défend et qu'il dit qu'il s'adapte aux situations, il est extrêmement agressif, il va chercher vraiment à défoncer ta majesté directe, et bien il va poser enfant parce qu'à cause de ce qu'Erwan disait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand l'autre va désinguer l'enfant, et bien il va perdre 5 points. C'est-à-dire qu'au tour 1, tu as fait perdre 5 points à l'adversaire. T'as pas le droit d'attaquer, mais t'as fait perdre 5 points. Erwan, tu me dis ça? C'est ça?
C'est vraiment ça. C'est
et toi, tu joues
ça.
Agressif aussi. Par exemple, quand je vois, souvent, t'as des gros pics et des gros carreaux.
Moi, mon but, vraiment, quand je joue au Val, c'est pas que la partie dure.
Voilà,
clairement,
c'est ça.
Clairement, c'est vraiment ça.
Alors, donc, l'enfant. J'ai l'impression de jouer très agressif aussi. Hein. J'hésite pas à balancer des gros carreaux de ma main.
Bah,
pour
si on réfléchit bien.
La pression à l'adversaire.
L'argument principal de ton accompli qui survit, ça reste quand même pour se cumuler et bousiller à une grosse carte qui arrive derrière, finalement,
ben
si
oui,
on y réfléchit
c'est
bien.
Très agressif, et j'ai l'impression d'accord, que faire ouais. survivre une créature, et pour pouvoir taper à deux créatures, c'est-à-dire mon accompli, il a un 7 de pique, et la deuxième créature que je vais poser, elle aura un, je sais pas, un 8 de carreau, ben ça fait beaucoup plus que ton 5 que t'as fait
va falloir
en te laissant tuer ton enfant.
Va falloir qu'on rejoue Darky, parce que depuis la dernière fois qu'on a joué, moi j'ai rechangé de façon de jouer. Et si t'es le même genre de joueur qu'Erwan, faut voir. Parce que,
moi,
Erwan,
parce
un
que
peu
c'est vrai que.
De toute façon,
en fait,
un podcast amène forcément à des parties pour se défoncer.
Voilà, tout à fait. Mais un vrai point et un truc essentiel, c'est que l'expérience de Darky est tronquée, en fait, parce qu'il dit bien qu'on a deux de chaque. Or, maintenant. Refaisons cette expérience, mais avec des mains plus aléatoires.
Je suis tout à fait d'accord.
Et là, les réponses, à mon avis, tournent à d'autres avantages. Moi, je pense que là, du coup, c'est nous, Erwan et moi, qui avons raison sur l'enfant. Parce que, effectivement, l'argument de Fly est très valable. C'est-à-dire que si tu poses... D'ailleurs, on jouait tout à l'heure avec Sébastien Maurice, que je salue au passage, qui est à l'occasion à la barreau pour qu'elle débule. Erwan nous l'a ramené dans ses bagages.
J'aime bien faire ça.
Ramène des copains comme ça. Et Sébastien, à un moment donné, a joué un accompli contre moi en se disant bah, « Là, j'ai la possibilité de le faire. » Donc Sébastien venait d'apprendre à jouer. Il se dit bah, « J'ai la possibilité de poser la plus grosse figure du jeu, je le fais. »
Il était autour de lui. Hein.
Il était autour... Deux,
puisque
c'est vrai.
Poser un enfant.
Tout à fait, c'est vrai. Il était au tour 2. Et tour 4, il me dit « Ah oh merde, je ne peux plus rien jouer. Je ne peux plus rien jouer. » Parce qu'il n'avait il avait pas fait attention qu'il se retrouvait dans une situation de pénurie. Résultat, il y avait les deux meilleures sorties possibles, c'était soit celle d'Erwan et de moi, mais, c'est-à-dire l'enfant, mais on sait que jouer l'enfant au tour 2, c'est souvent mortel pour celui qui le fait. Et dernière solution, et deuxième solution, et à mon avis la meilleure, c'est celle de Fly, qui consistait à poser ce fou pour recycler.
Merci.
Dans sa situation où il était,
ouais.
Ce qu'il devait faire pour moi, c'était...
Accompli pioche.
Non. T'avais posé un enfant roi.
Ouais.
Il avait un 10 de pique, il pouvait poser un chevalier et te tuer ton enfant.
Non, faux.
Ah,
le maximum qu'il pouvait faire, c'était une dame et un 10, et ça le menait à 13. Mon enfant roi était à 14, puisque c'était un roi et
un
10.
Roi,
non.
Okay.
J'ai bien vu le truc, c'était pas possible.
Ah ouais, bah, la partie était gagnée. Hein.
Non,
l'enfant qu'il ne pouvait pas tuer au tour 1.
Exactement.
D'accord, okay.
Et en plus, au tour d'après, je pose spectre, ce qui me met dans une position de Deneb classique,
d'accord.
Ultime. Enfin, non, c'est sûr que j'étais plutôt bien parti.
Mais là, il y a aussi l'expérience qui joue.
Ah bah oui.
Parce que...
C'était pas ta première,
parce que...
C'était ta première partie.
C'est malheureusement vrai.
Non, mais parce que moi, au tout début où j'ai appris à jouer, j'aurais eu le 10 de cœur et de quoi faire un spectre. Je me posais même pas la question, je posais un accompli.
Voilà. Alors que moi, j'ai choisi de jouer en Deneb. Ce qu'aurait peut-être dû faire Sébastien au final. Tu vois ce que je veux dire, Dark?
Oui, complètement.
Et comme c'est... on dit, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier.
Ouais.
Quoi.
Et pour revenir à ton...
Attends, pas de blague hors micro, j'ai pas entendu qu'est-ce qu'il a dit.
Je voulais revenir juste à ton... Oui, effectivement, mon expérience était tronquée. C'était bien une question,
c'est une question
situationnelle.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Parce que en fait, si on analyse le truc sur une situation plus classique, d'un Val plus classique, à mon avis, l'accompli de paille, c'est une stratégie qui se discute. Je pense que si Cédric était là, il pourrait la défendre. Moi, franchement, je lui préfère l'enfant dans un premier temps, qui le fou de Menken, si jamais, et l'accompli en dernier ressort. Je trouve que l'accompli au tour 1 n'est pas forcément.
Mais tu vois, le fou de Menken, je le joue quand même depuis très très longtemps. À chaque fois que j'essaye de faire une autre sortie, à chaque fois, je me plante.
Ah oui.
Moi, vraiment, le fou de Menken. Chacun sa façon de jouer, hein, mais vraiment, moi, j'aime bien cette sortie-là. J'y reviens toujours.
Après, c'est vrai que, pour rebondir un petit peu sur la question de Darky, si tu as des super cartes à pique et à carreau, et même en cœur, effectivement, là, tu poses un accompli ou un chevalier sans hésiter.
En fait, voilà. Moi,
c'est ça le truc.
Moi, la stratégie de l'accompli, je la trouve moins bien qu'une stratégie de chevalier. Dans le cas où tu as d'excellentes cartes, d'excellents cœurs, d'excellents piques, je trouve qu'il vaut mieux poser un gros chevalier.
Si tu as d'excellentes cartes, l'autre n'en a pas et la partie est pliée. Quoi.
Attention, moi, je ne suis pas d'accord sur un truc. Le chevalier, moi, je ne lui mets jamais un gros carreau.
Oui. Non.
Pourquoi ?
Non, parce que.
En fait, c'est pas sur lui qui a le plus 1. Moi, je préfère garder mon gros carreau pour soit un magicien, soit un spectre.
un dégât direct.
Non, aussi. Et puis l'overkill, ça sert à rien de mettre deux bonnes cartes d'attaque généralement dans une formation.
Autant que t'aies deux figures avec une figure qui va pouvoir attaquer à carreau et ensuite à côté la figure qui attaque à pique, tu fais 20 de dégâts au lieu de 10 pour vu que tu pourras pas utiliser les
absolument.
Deux.
Absolument,
tout à fait. Ouais. Non, effectivement, bah, à ce moment-là, oui, ce serait un accompli avec un cœur, un pique et un trèfle très fort.
Ouais, voilà, c'est ça.
Voilà, d'accord.
C'est un accompli qui est très bon
en défense. Que les auditeurs ne verront pas.
C'est Leviosa, pas Leviosa.
Bon, voilà.
De serve.
Ce qu'on pouvait vous dire. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur cet exemple de partie?
Non, apparemment, Jeff en a.
Ça t'intéressait?
Juste Jeff. Envie de te poser une question, peut-être toute bête. Et dans ton cas de figure, donc c'était de savoir quelle figure on sortirait. Et dans la version narrative, est-ce que ça changerait quelque chose?
Alors, dans la version narrative, la première formation que tu poses a un bonus de 1, 4 ou je ne sais plus.
Elle a que 2 points d'immersion. Elle n'a que 2 points d'immersion lorsqu'elle arrive. Parce que la première figure posée ne peut pas être liée à une figure de ton versant puisqu'il n'y en a pas encore. Elle ne peut pas être posée à une figure du versant adverse puisqu'il n'y en a pas encore. Mais par contre, la première posée a forcément un bonus de plus 1 parce que c'est la première. Et voilà.
D'accord.
Il y a une règle. Sinon, ça déséquilibrerait trop.
Donc, elle est pas mal. Elle est très intéressante. Ou pas spécialement.
Non, pas spécialement. Parce que la figure la plus intéressante, c'est celle qui va être liée à la fois à une figure de son versant et à la fois à une figure de l'adversaire. Si on réfléchit à la structure du Val narratif, théoriquement, la première figure posée commence avec 2 points d'immersion. La deuxième avec 3, la quatrième avec 4, et ensuite toutes les autres ont 4. Il y a un stagnation.
Dans le Val narratif, moi ce que j'aime bien faire, c'est faut se dire que de toute façon, la première figure, elle va être reliée, les autres figures qui vont arriver après vont être reliées à elle.
Oui.
Donc c'est celle qui doit avoir l'histoire la plus tragique, celle qui va mourir et que tout le monde va vouloir venger. Oh, pauvre petit enfant.
Alors, c'est marrant,
donc
parce
un enfant en premier lieu.
J'ai fait qu'une partie contre.
Un narratif, ouais, un enfant, il faut.
Et moi, je m'étais dit l'exact opposé. Ouais. C'était la première figure que je vais poser, elle va être tellement liée par la suite à l'histoire, c'est elle qui va imposer
qu'il faut
qu'elle
tienne.
Ouais, voilà.
Un peu le
coup. Et j'avais fait un accompli, je m'en souviens. Raoul.
Raoul.
Un roi de carreau.
Un roi énorme.
Ouais.
Je m'en souviens
bien
très
sûr,
bien.
Vas-y,
Jeff. Tu voulais poser.
Bon, pour revenir quand même sur la version narrative. Par rapport à ton cas de figure de ce podcast, justement, ce serait quelle figure qui serait le plus intéressante? Quel type de figure, je parle? Est-ce que tu as une réponse à ça, toi? Ou quelqu'un a une réponse à ça autour de la table?
Alors,
parce que si vous avez une réponse,
j'ai une idée derrière la tête. Oui, c'est-à-dire narrativement, quelle est la plus intéressante du point de vue de l'histoire?
Pas forcément, Romaric.
Ah,
moi, je parle dans le cas de figure qui disait, donc on a des cartes... On a tout ce qu'il faut et compagnie.
Ouais.
Comme au début du podcast, comme il nous l'a énoncé, est-ce que dans ce cas-là, en narratif, il y a une figure qu'il faut sortir? Au départ, dans la version narrative, chacun a donné son idée.
Non.
L'enfant,
en fait,
l'accompli compagnie.
Pour moi, le fait que.
Dans le narratif, est-ce qu'il y aurait une figure qui serait vraiment plus sympa à sortir dans le cas énoncé?
Je ne peux pas te donner de réponse objective, j'ai l'impression. Parce que c'est... Bon, bien sûr, le but c'est de gagner au Val narratif, mais le but c'est tellement aussi. Enfin, la fiction prend le pas et t'es là pour t'éclater quelque part en pleine
D'accord,
partie. Tu veux gagner à fond, mais de là à faire une réponse stratégiquement viable, en plus tu peux pas savoir l'adversaire va poser quelle formation, va l'allier de telle ou telle manière, va prendre des bonus. Du coup, j'ai l'impression qu'il faut poser ce qui t'éclate.
J'aimerais que tout le monde essaie de répondre à cette question.
J'ai un autre argument. C'est-à-dire que si tu poses l'enfant.
Flavie.
Très souvent, Romaric essaie de devenir le gentil, tu vois. Genre, il crée un univers où il est gentil,
mais ça, c'est
où
son...
c'est lui qui est sympa.
C'est son, son côté Seiya, faut pas lui en vouloir.
Sauf que, toi, tu poses un enfant, un gros enfant, hein, au premier tour. Et lui, il a d'autres choix que de tuer l'enfant qui est généralement le fils du roi ou l'enfant que tout le monde aime bien qui ramasse des pommes pour ses amis.
Donc...
Et du coup, il devient le méchant. Et rien que pour voir sa tête à ce moment-là, en disant « mais non, mais je veux pas faire ça », c'est rien que pour ça. C'est
alors bon, donc ça c'est uniquement si vous faites une partie de Val narratif contre moi en fait. Hein. Merci Fly de donner des conseils aux auditeurs pour des parties de Val contre moi, c'est super.
Mais de rien.
Et je pense qu'ils en ont rien à secouer, à peu de choses près. Non, par contre...
Si vous voulez devenir le gentil de l'histoire,
voilà.
Il faut faire ça.
Et là on est d'accord, c'est-à-dire qu'en fait ta question, Jeff, on ne peut y répondre qu'en regardant les objectifs que les joueurs vont se fixer avant la partie. Parce qu'avant chaque partie de Val narratif, les joueurs, les étoiles, se fixent des objectifs. Évidemment, si ton objectif c'est de faire la guerre au versant opposé, ça peut être intéressant de commencer cash avec un gros chevalier bourrin pour raconter son histoire dès le départ et effectivement le lier, etc. Si ton objectif c'est de défendre ou de défendre ton étoile, de défendre une fontaine qui se trouve sur ton versant, je ne sais quelle histoire un peu grecque et voilà, avec Aphrodite tout ça, là du coup tu vas plus être tenté par poser des enfants.
Aphrodite des poissons.
Oui, tout à fait, c'est ça.
Non, mais il faut aussi voir le truc, c'est que quand on joue au Val narratif, il y a l'histoire qui joue. Enfin, un truc tout bête, là, je vous ai cité l'histoire de Romaric, mais parce que moi, j'ai posé enfant sur enfant, et qu'à la fin, il avait tellement, parce que je les faisais hyper pathos, tes enfants, ils avaient le truc de la passoire de nouilles sur la tête pour aller combattre.
Le petit casque pour combattre.
Voilà.
Et bah à la fin, je me suis suicidé.
Bah, il a préféré suicider son. Vas-y, on était à 5 points de vie tous les deux. Enfin, non, moi, j'en peux plus. Il s'est suicidé parce qu'il pouvait plus tuer d'enfants, quoi. Je les faisais de plus en plus pathos, c'est triste. À la fin, ils avaient un. Est-ce qu'il va avec une épée en bois?
Ouais, stratégiquement,
tout bête,
voilà.
Tout bête par rapport à cette question que je t'ai posée. Est-ce que tu as un avis sur le sujet, toi, Erwan?
En val narratif, moi je pars assez loin, je peux partir assez loin, un peu dans n'importe quelle direction. Mmh. Hein, je sais pas ce que tu en penses.
T'es bien à fond. Mais tu pars pas dans n'importe quelle direction quand même. Tu restes dans la canon.
Oui, comme tu dis, en fait, je pense que je vais me fixer un objectif dès le départ.
Mais souvent, tu veux être le juste, toi.
Ah, moi je.
Ouais. C'est mon rôle,
c'est ma vie. Je ne peux pas jouer le méchant. Mmh. Je vais à chaque fois d'ailleurs justifier mes actes pour
tout à fait trouver une manière de dire oui. Absolument. Bon, je lui arrache son cœur, mais c'était
pour,
juste.
C'est pour le bien-être de la communauté, voyons.
Ouais, bien sûr. C'est les pires. Contre toi, ça peut très bien marcher.
Le juste, étoile.
La technique de l'enfant marchera très bien.
Ah non, parce que moi, je trouverais toujours une raison pour tuer l'enfant.
En fait, ce que tu veux dire, Fly, finalement, c'est que l'enfant. Stratégiquement, du
dans
point de vue narratif,
ça marche. Bien.
Eh ben, ça marche parce que ça détruit la psychologie de l'adversaire s'il avait pris un objectif positif.
Exactement, parce que tu le regardes avec des petits yeux, tu fais non, tu vas quand même pas me faire du ah.
Mais du coup, moi, ça me rassure. Donc, par rapport au cas de problème et non, enfin le cas énoncé par Darky tout à l'heure, dans cette main particulière en mode narratif, justement, il n'y a pas. Qu'une seule issue. Enfin, il n'y a pas qu'une seule issue. C'est ça qui est sympa. Non, c'est ça que je voulais souligner. Ouais,
pas qu'une seule issue. Ça joue beaucoup aussi sur ta personnalité.
Voilà.
Ce que tu veux dire, c'est que le Val narratif, finalement, est plus riche parce qu'il est moins ludiste, peut-être, moins basé sur la compétition et plus basé sur l'histoire.
Malgré que je n'ai pas encore participé, enfin, je n'ai pas encore fait une partie de Val narratif, et Dieu sait que j'en ai envie, ouais. Au moins, ça me conforte dans cette idée-là que D'accord. Je pense que je vais surtout prendre mon pied sur le narratif.
Ouais. Bah, tu racontais déjà
des
histoires.
C'est ma version préférée, moi. Vraiment.
Ah, clairement. C'est vraiment génial.
Bon. C'est excellent. Mangez-en.
Merci les gars, ça va. J'ai mes chevilles qui grossissent là.
Nous t'achèterons des nouvelles bottes.
Si.
Non, tu
on va te faire des grossir en allant te défoncer la gueule.
Tu auras les chevilles qui grossiront quand je t'appellerai Athéna.
D'accord.
Okay.
Bon, en tout cas, voilà,
c'est une tradition aussi.
Dire,
hein. On interrompt la personne qui essaie de conclure le podcast.
Toujours.
On va le drafter.
Where is my Val?
Non, bah, c'est bon, ça va. On a eu notre stock de chansons pour aujourd'hui, je pense. Il faut pas toutes les gaspiller, hein. Vous en avez besoin. Et puis, on va laisser notre chanteur préféré de générique conclure ce podcast. Mais quoi qu'il en soit, ouais, c'était une question intéressante. Et merci. Qui n'a rien à voir avec la question quelle est la meilleure ouverture selon vous? Selon moi, ta question, c'est pas quelle est la meilleure ouverture selon vous, c'est dans un cas bien précis, voici qu'est-ce que vous faites.
Alors, juste pour
justifier,
j'ai choisi ça parce que si on donne pas une main spéciale au début, je trouve que notre ouverture dépend trop de notre main. On regarde exactement nos cartes, on sait quelle carte l'adversaire n'a pas, et on se fixe trop l'ouverture. Et aussi, il y avait une seconde petite porte cachée dans ma question. Évidemment, si on se souvient du podcast 1, j'expliquais que j'étais fan de la variante d'Ostein. Mmh. En Ostein, on se retrouve très souvent avec des mains de ce type.
Moi, c'est pas vrai.
Si. On s'arrange pour pas être en pénurie dans Ostein.
Oui,
et donc
mais
on a un peu de tout.
Oui, mais souvent il y a une chose qu'on a qu'en un. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, on retombe sur l'argument de Flavie. Mmh. Okay. On verra. Enfin, ça se discute, mais effectivement, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. C'est qu'en Ostein, on se retrouve plus souvent face à ce choix-là qu'en Val normal, finalement.
Podcast, cette problématique s'adressait à la partie normale, à la variante narrative, comme l'a signalé Jeff.
Intéressant de voir que la variante narrative amène d'autres comportements de la part des joueurs.
C'est vrai.
Intéressant. Allez, à bientôt tout le monde. Jouez bien au Val, c'est ça qui compte.
Ciao.
Sous le à bientôt.
Bon, bisous.